Je t'aime.
Un peu.
Beaucoup.
Un peu.
Je t'aime.
Beaucoup.
Je t'aime.
Un peu.
Passionnément.
Beaucoup.
Je t'aime.
Je t'aime.
Passionnément.
Un peu.
Beaucoup.
Passionnément.
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 La passion des abeilles, une émission proposée par Nathalie Mandirac avec Régis Tardieu. Régis Tardieu a la trentaine. Il est originaire de Lacan, commune de Castelmarie. Après avoir vécu et travaillé à Toulouse, il revient à la ferme pour vivre de sa passion, l'apiculture. Nous avons rendez-vous dans sa miellerie, où il est en train de fabriquer des ruches et des cadres en bois. C'est son activité principale durant l'hiver.
Quand une fleur arrive à maturité, un ou deux jours après l'éclosion de la fleur, j'amène les ruches et je reste jusqu'à ce que la fleur commence à faner. Un peu avant qu'elle soit complètement fanée, je laisse mes ruches et je cible des zones où il y a beaucoup d'essence. Enfin non, une seule essence mais en grande quantité. Donc, des zones où il y aura par exemple énormément de châtaigniers.
Comment elle se présente la saison ?
Bon, ici, typiquement, c'est ce qu'on appelle les fleurs de printemps. Donc, tout ce qui est clos en ce moment, les fruitiers, les ronces, tout ça. Le pissenlit, beaucoup de pissenlit ici. Il y a un peu de colza, donc ça, c'est de la culture. Ensuite, acacia, châtaignier.
Alors, acacia, châtaignier, donc on est à quel moment de l'année ?
Oh ben, châtaignier, ici, on est début juin. Voilà, acacia avant. L'acacia, ça peut être foudroyant, comme mielé, en 10 jours, 15 jours, ça peut être plié. Châtaignier dure plus longtemps, ça dépend des conditions météo, en fait. Et ensuite, on termine, soit on bouge, on va sur tournesol, donc ici, dans le Tarn, le Lauragais, ou ensuite du côté du Gers. Ou alors, il y a d'autres options, on peut aller aussi sur l'Aubrac.
Alors, comment vous faites pour vous déplacer ? Vous chargez vos ruches dans un camion et après vous partez ?
J'actionne le trafic. Et je me motive et je charge les caisses. Moi, je travaille à la main. On trouve un emplacement et on amène ce rucher sur l'emplacement. Acacia, châtaignier, peu importe la fleur. On l'amène et ensuite, voilà, les ruchers, moi, je commence. Donc, je suis pas super rapide. Donc, je me fais des petits ruchers et j'ai plusieurs emplacements. Sur une même essence, hein, ça, mais à des endroits différents. Je m'établis un circuit et je visite les ruches pendant la... La miellée, on appelle ça la miellée.
Périodicité de la visite, c'est...
Ouais, ça dépend de où on en est dans la saison apicole. En hiver, je les visite très peu. Ça refroidit le couvain, c'est pas bon. Enfin, on n'ouvre pas trop les ruches l'hiver. Par contre, dès le printemps, on commence par une visite de printemps. Donc, on fait un état des lieux de ce qui s'est passé pendant l'hiver. On voit comment est le cheptel, est-ce que c'est en bonne santé, est-ce que c'est mort, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce qu'il y a du couvain, est-ce que... Première sélection, état des lieux. Et à partir de cette première visite, selon la météo, on y passe très régulièrement, une fois par semaine.
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand même assez risqué de s'installer comme apiculteur.
Enfin, ah bon, pourquoi ?
Je trouve que quand même les pauvres le sont assaillis de calamités, on va dire. Et
vous voulez dire courageux. Les pauvres, les abeilles, pas les apiculteurs.
Non,
hein,
rassurez-moi. Les abeilles.
Calamité, ouais, je sais pas quelle calamité.
Eh ben moi, j'en vois déjà les pesticides qui les affaiblissent, les parasites qu'elles ont dans les ruches, le varroa, et bon, le frelon asiatique aussi.
Ouais.
Ça fait quand même beaucoup.
Mais on peut rajouter les OGM. Hein. Et c'est vrai qu'actuellement, l'apiculture a quelques difficultés, on peut pas le nier. Le varroa est là depuis 1985, en France, particulièrement en Europe. Pour l'instant, rien n'est vraiment... Il y a des traitements chimiques qui existent contre varroa, mais très ponctuels, qui libèrent l'abeille du parasite pendant 6 mois, et puis il faut recommencer parce qu'elle est encore infectée, étant donné que le varroa se met dans la larve. Donc on n'a pas trouvé... Les chercheurs, il y a des recherches qui se font dans le monde entier sur varroa. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement bio. Les huiles essentielles, il y a des essais qui se font, mais... Pour quelqu'un qui veut vivre de la vente du miel ou des dérivés de la ruche, il faut produire quand même. Et c'est pas encore satisfaisant. Des gens y travaillent, mais ça, c'est pas résolu, loin de là. Varroa, un gros problème. La pression phytosanitaire, Évidemment qu'elle est là, la pollution environnementale qui peut venir de très loin.
Oui, parce que ça, finalement, ça affaiblit l'abeille, après ça...
C'est clair.
Ça...
Et pression phytosanitaire, là, on est arrivé à un point où y a le cruiseur là, qui sort sur le maïs. Enfin, j'espère qu'il ne va pas sortir, mais il est fabriqué. Avec un enrobage neurotoxique, l'abeille ne retrouve plus son chemin. Donc là, on est arrivé à un sommet du neurotoxique, qui est, du phyto, qui est lourd, quoi. Mmh. La pression y est. Dans cette zone, on est dans de la polyculture élevage. Pour avoir parlé avec les paysans en place, ils sont plutôt dans un mode d'agriculture raisonnée. Donc, s'ils peuvent s'économiser des traitements, ils le font bien volontiers pour leur santé, pour leur portefeuille et éventuellement pour l'environnement. Mais il y a quand même une prise de conscience, très claire. Il y a aussi sur la région pas mal d'anciens paysans malades. Voilà, ça fait réfléchir.
Et le frelon, c'est un gros problème pour vous ?
Je sais pas, moi j'ai pas de recul sur le frelon. J'en vois sur mes ruchers. Je sais pas, je pense que le frelon, il me semble que l'abeille s'adapte. Hein, commence à trouver des méthodes pour lutter. Ouais, pour lutter vachement plus efficacement qu'avant. Et je pense que, enfin voilà, si on groupe des ruches, qu'on fasse un rucher de 10-15, peut-être que... Elles se défendent mieux. Des ruches isolées, c'est peut-être un peu plus compliqué, ouais. Mmh. Mais, je sais pas, frelon asiatique, c'est la nouveauté. Enfin, la nouveauté. C'est l'avant-dernière nouveauté avant les OGM. J'ai pas trop d'avis là-dessus.
Vous les piégez ? Vous avez l'intention de piéger ?
J'ai l'intention de piéger mes premiers emplacements, ouais. Par contre, les OGM, c'est une réalité qui est présente pas loin de chez nous, en Espagne. 350 000 hectares d'OGM en Catalogne. Moralité, les Espagnols qui vendaient beaucoup aux Allemands, donc pour des acheteurs intéressés par du bio, du miel de qualité, se sont vus refuser toute leur production en 2011. Tout sur les bras. Parce que les Allemands ont fait quelques analyses un peu poussées, ont retrouvé des traces d'OGM. On n'achète pas ce miel. Donc les OGM... À mon avis, c'est pas au niveau du frelon asiatique. Quoi.
Un gros souci par rapport à la pollinisation des autres espèces, c'est ça ?
Sur les zones, comme je vous disais, où il y a des OGM, les apiculteurs n'iront pas. Et puis, c'est un choix qui se pose. Les OGM n'auraient pas forcément besoin de pollinisation, quoi. Donc là, ça dépasse un peu tout, quoi.
Voilà, on ne sait pas où on va, en fait. C'est l'interrogation la plus totale.
On ne sait pas où on va. Je pense que les semenciers savent où ils vont. Voilà, il y a plein de recherches qui sont faites sur la vigne, sur plein de variétés du monde vivant en OGM. Et les OGM, on vous vend un pack avec l'insecticide compris, enrobé, tout... La plante autonome, il faut pas se tromper, les OGM, ce sont des usines à pesticides. Ils sont là, dans la place, quoi. Donc là, on explose complètement le phytosanitaire. On dépasse encore les normes phytosanitaires qu'on avait, c'est intégré. Quoi.
C'est voilà. Tout compris.
C'est le pack. C'est le pack OGM à prendre ou à laisser. Moi, je dis qu'il faut laisser.
Donc là, on est en train de s'équiper pour descendre aux ruches. Ouais. Alors, on a mis la combinaison, les gants, on a préparé le buffadou.
Voilà.
Et le tournevis, là ?
Lève-cadre.
Le lève-cadre. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a plusieurs races d'abeilles. Il y a des abeilles locales.
Ouais. Moi, je travaille en Buckfast, c'est une hybride. Voilà, qui a la qualité d'être douce. Elle tient le cadre, assez populaire en saison, qui est capable de... C'est une abeille, il faut pas qu'elle ait faim.
Ouais, pourquoi ?
Parce qu'elle supporte... Enfin, toutes les abeilles supportent très mal ça, mais la Buckfast...
Elle est sensible à la...
Disons que... Voilà, ça.
Elle est fragile.
Il faut tout le temps qu'elle ait à manger. Plus elle a de miellet, plus en fait, elle va vous l'amener sur 4-5 variétés. Essence différente de fleurs, elle fera du miel. Elle a une grosse capacité d'amassage, quoi. Parce que j'ai des souvenirs d'abeilles locales d'ici. où on se faisait un peu plus attaquer quand même, elle est un peu plus, la locale est plus vive. Mais ça m'intéresse parce que finalement la locale elle est adaptée.
Elle est adaptée à l'environnement.
Et ouais. Donc à terme, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, la locale.
Et ça peut se mélanger les races d'hybrides avec une locale par exemple?
Ben oui, ça peut se mélanger si la reine est fécondée par un mâle local. Il y a mélange.
D'accord. Voilà. Vous pouvez créer votre propre race.
Ouais, enfin, créer, c'est beaucoup dire parce qu'on gère pas grand chose. Hein.
Ouais. Ou favoriser, du moins.
Voilà, ouais. On introduit. Moi, je vais faire l'élevage de rennes. Donc, je vais faire en sorte d'avoir des lignées de rennes bien particulières. Mais ensuite, qui seront fécondées soit par des mâles locaux, soit par des mâles issus de la ruche. Donc plus ou moins sur la même lignée.
D'accord.
Mais bon, ça reste la grande loterie de la nature.
Bon, on y va alors, on va voir les ruches. Il y avait des ruches dans votre famille, enfin, vous connaissiez, ouais. Vous étiez apiculteur amateur.
Ici, il y a toujours eu quelques bourgnios, des ruches en Occitanie. Il y a toujours eu quelques bourgnios là au fond du bois. Là.
Votre père, il en avait?
Ouais, mon père en avait, mon oncle aussi. Et il y a toujours eu des ruches à la calme, il y a des ruches un peu industrielles comme aujourd'hui, mais il y avait aussi les bourgnios, les troncs d'arbres avec les pierres dessus. Ouais. Toujours eu un peu de miel, mais comme il y avait en campagne du miel dans toutes les fermes. Ouais. Pas si longtemps que ça, pas en quantité, mais pour en manger pour la famille. Donc il y a toujours eu ça, ouais. Ouais,
d'accord, ouais. On y va? Donc là, vous les avez mis en place pour la première miellée, alors?
Ah non, pas encore. Ouais, elles sont encore sur les emplacements de l'hiver, là. Autour du site, en fait, pas très loin.
Et alors là, elles se nourrissent comment, là, encore
Oh ben là, elles ramassent beaucoup de pollen, un peu de nectar.
Ah, je les entends.
Ah, j'ai la reine. Vous voyez la reine là?
Ah ouais.
C'est ça.
Elle est grosse.
Eh oui, oui.
Elle est un peu plus rouge que les autres. Elle est au moins deux fois plus longue. Elle a un abdomen disproportionné.
Et là, donc, elle cherche des alvéoles propres pour pondre.
D'accord. Elle est en pleine période de ponte, là,
la
reine?
Ah oui, c'est reparti, là. Ah oui, ça... Et là, donc, elle se balade, et effectivement, on voit des œufs au fond des alvéoles. Donc, c'est bien un cadre où elle pond.
Et alors, les œufs, on les voit comment? C'est des boules jaunes?
Non, justement pas. Vous voyez, il faut être au soleil. Là, il y en a à côté de cette zone où il y a du pollen. Ça, c'est du pollen, hein.
Truc jaune, là. Donc, dans les alvéoles, le truc jaune au fond, c'est du pollen.
Voilà. Ouais. C'est du pollen et à côté, il y a des œufs. Mais bon, il faut avoir peut-être un peu l'habitude. On voit des petits bâtonnets blancs au fond des alvéoles. Là. Je sais pas si... Des tout petits bâtonnets blancs. Ça, c'est
Ah oui, mais elles sont blanches, non?
Ça, ce sont des larves. Ouais. Vous voyez blanc, là. C'est le stade après. En fait, ça commence par un œuf, un bâtonnet blanc, ça devient une larve. Le couvain est operculé, c'est ce que vous voyez marron.
Et quoi?
Le couvain, c'est ça. C'est les futures abeilles.
Ah, d'accord. Après, elles sont
ça, c'est operculé. Pas. Elle se développe et l'abeille naît.
Donc là, il y a un peu tous les stades jusqu'à
ouais.
La larve.
C'est ça, ouais. Il y a un peu tout, là.
C'est marrant, c'est... les abeilles qui rentrent, elles sont chargées de pollen aux pattes, là, bien orange.
Du jaune, de l'orange, du noir. Le noir, c'est le coquelicot.
Est-ce qu'on appréhende des fois quand on soulève les plaques?
Oui, on appréhende, oui. Certains moments de l'année, on appréhende bien. Style en sortie d'hiver, première visite, c'est...
C'est stressant.
Ouais, c'est un peu stressant, ouais, parce que c'est là qu'on voit si la colonie a passé l'hiver, dans quel état elle est. Oui, celle-ci, elle n'est pas extraordinaire, par exemple. Bon, la reine pond, il y a toujours la reine. Le couvain, il est tout petit, mais il y a du miel, du pollen, elles ont des réserves.
Elle n'est pas là, la reine?
Ah, vous l'avez vue? Ah, mais oui, ah, voilà. Non. Si, c'est bien elle. Ici même, là.
J'avais vu un gros ventre rouge.
Voilà, donc elle est bien là. Elle pond tant bien que mal.
Et peut-être elle a commencé plus tard que les autres.
Eh oui, ouais, je sais pas. Ça c'est. Donc ça pond quand même, mais c'est. Ça c'est pas quelque chose que je suis prêt à transvaser en ruche. Vous voyez. C'est peut-être plutôt quelque chose que je vais rassembler. Avec une autre ruchette qui n'est pas très forte. En faire une de bonne, garder une reine sur deux, et voilà.
Donc il faut garder une seule reine quand vous faites ça.
Quand vous avez deux ruchettes comme ça, chaque ruchette, chaque colonie donc, a une reine qui gère les troupes. Et si vous rassemblez deux colonies,
vous supprimez une reine.
Il faut supprimer une reine parce que, de toute façon, si vous ne le faites pas, elles se supprimeront. Hein. La colonie n'acceptera pas d'avoir deux reines. Ah, c'est la reine, quoi.
Alors, dites-nous un petit peu quels sont vos projets par rapport à la vente de miel. Si vous êtes déjà organisé ou si c'est en cours.
J'envisage plusieurs pistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire un miel monofloral autant que faire se peut, c'est-à-dire d'une essence. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir le consommateur en face.
Faire la vente directe peut-être ?
Ouais, la vente directe, ouais, plusieurs solutions à la ferme, par du bouche à oreille, sur du marché. Il y a ça qui m'intéresse. Moi j'aimerais bien fidéliser ma clientèle en fait. Avoir un miel qui plaît à des gens, que je rencontre de temps en temps, le plus possible. Qu'on ait un échange quoi. Un échange sur comment ils trouvent le miel, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et fidéliser, voilà, une clientèle. Ça m'intéresse beaucoup.
Puis ça donne une occasion de supplémentaire de parler des abeilles.
Ouais, aussi, ouais.
De parler de l'environnement et de parler de votre métier de passion.
Voilà, et puis bon, l'apiculture, c'est quand même un métier qui, par moments, peut être très solitaire. Et très solidaire aussi. Mais... voilà, moi j'ai pas envie de m'enfermer dans ma miellerie. Et ensuite, la miellerie elle est ouverte. Quoi. Elle est ouverte des gens d'ici, des gens d'ailleurs, des gens de partout. Quoi. C'est pas. Pour moi, c'est tout sauf un lieu fermé.
C'était La Passion des Abeilles, une émission proposée par Nathalie Mandirac. Merci à Régis Tardieu de nous avoir fait partager son métier. Qui est bien plus que cela, c'est un art de vivre.